Chapitre 19, versets 1 à 10, les noces de l'agneau. Citation de l'Écriture. Après ces choses, jouit comme une grande voix d'une foule nombreuse dans le ciel, disant « Alléluia ! Le salut et la gloire et la puissance de notre Dieu, car ses jugements sont véritables et justes. » Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa fornication, et il a vengé le sang de ses esclaves, le réclamant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, « Alléluia !» Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 anciens et les 4 animaux tombèrent sur leurs faces et rendirent hommage à Dieu qui était assis sur le trône, disant, « Amen ! Alléluia !» Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses esclaves, et vous qui le craignez, petits et grands. » Et jouit comme une voix d'une foule nombreuse, et comme une voix de grandes eaux, et comme une voix de fort tonnerre disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et tressaillons de joie, et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, et sa femme s'est préparée, et il lui a été donné d'être vêtue de fin lin, éclatante et pure, car le fin lin, ce sont les justices des saints. » Et il me dit, « Écris, bienheureux, ceux qui sont conviés au banquet des noces de l'agneau. » Et il me dit, « Ce sont ici les véritables paroles de Dieu. » Et je tombai devant ses pieds pour lui rendre hommage, et il me dit, « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon d'esclavage et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Rends hommage à Dieu, car l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus. » Fin de citation. En regardant la chrétienté aujourd'hui, on voit d'une part que la grande profession chrétienne se corrompt de plus en plus et finira par être soutenue par les chefs politiques qui tirent leur pouvoir de l'abîme. En langage symbolique, la femme s'assiera sur la bête. D'un autre côté, nous voyons le vrai peuple de Dieu devenir de plus en plus faible extérieurement et insignifiant aux yeux du monde. Face à la corruption de la profession et à la faiblesse du vrai peuple de Dieu, pour nous qui désirons être fidèles à la lumière qui nous a été donnée, il y a toujours le danger que nos esprits se lassent et faiblissent, que nos mains se lassent, que nos genoux défaillent et que nous nous écartions du droit et étroit chemin vers un chemin plus large et plus facile. Afin qu'en dépit des difficultés nous puissions continuer à courir avec patience la course qui est devant nous, nous voyons dans l'Écriture que l'Esprit de Dieu dirige continuellement nos pensées vers la fin du voyage. Ainsi, ayant vu dans les chapitres 17 et 18 les jugements définitifs de toutes les corruptions de la chrétienté, dans ce passage, nous sommes maintenant transportés en esprit au ciel pour voir déployer devant nous la gloire de Christ et la bénédiction finale de son peuple. Combien il est bon, alors, de regarder par-delà la longue nuit noire et saluer le jour à venir, quand, à tous tes saints dans la lumière, tu déploieras tes gloires. Verset 1. Jean peut dire, « Après ces choses, jouit comme une grande voix d'une foule nombreuse dans le ciel. » Il nous est permis non seulement de voir le jugement final de la fausse Église sur la terre, mais il nous est également révélé la béatitude finale de la vraie Église dans le ciel. Au verset 20 du chapitre 18, nous avons déjà entendu que le ciel avec les saints, les apôtres et les prophètes était appelé à se réjouir du jugement de la fausse femme. Maintenant, nous pouvons entendre la réponse du ciel, car on entend une foule nombreuse dans le ciel dire « Alléluia ». Eux aussi parlent d'une seule voix, une voix de grandes eaux. Toute la pensée du ciel est une. Comme nous le chantons parfois, aucune fausse note ne donnera de son discordant. Babylone avait professé que le salut ne se trouvait que dans son faux système. Elle s'était arrogée gloire et puissance, comme nous le lisons. Elle s'est glorifiée. Et elle a dit en son cœur, « Je suis assise en reine. » Le ciel, d'une seule voix, attribue salut, gloire et puissance à Dieu. Versets 2 à 4. De plus, le ciel voit que le jugement de ce faux système est revendiqué par la sainteté de Dieu et dit d'une seule voix, « Ces jugements sont véritables et justes. » Regardant en arrière, nous voyons l'arrogance, l'autoglorification et l'étalage de puissance de ce système corrompu que Dieu a permis pendant des siècles. Nous pensons aussi aux persécutions de millions d'enfants de Dieu, dont le sang a été versé par les mains de la fausse femme, sans que Dieu n'intervienne en apparence. En voyant ces choses, nous pourrions penser que Dieu a été indifférent au mal qu'a fait le monde et aux douleurs de ses saints. Mais le jour viendra enfin où l'on verra que la patience de Dieu ne signifie pas qu'il a négligé sa promesse ou qu'il n'a pas vu les souffrances et entendu les cris de son peuple. Il jugera avec justice toutes les corruptions et vengera le sang de ses serviteurs. Cette intervention de Dieu appelle un second Alléluia des armées du ciel. De plus, les saints se prosternent et adorent Dieu, et pour la troisième fois nous entendons le ciel élever son Alléluia. Le premier Alléluia est suscité par les attributs de Dieu, le second pour ses saints jugements sur le mal, le troisième est l'adoration pour tout ce que Dieu est en lui-même. Versets 5 à 7. La question des corruptions de la terre ayant été traitée, et le sang des saints étant vengé, il nous est permis de regarder par la foi au-delà des jugements et de voir la gloire de Christ et la bénédiction de son peuple. Nous voyons le chemin ouvert à l'établissement du règne de Christ et au grand jour des noces de l'agneau. En vue de ces grands événements, une voix venue du ciel appelle tous les serviteurs de Dieu, petits et grands, à louer notre Dieu. Le ciel répond à l'appel avec joie, car Jean entend aussitôt la louange d'une foule nombreuse comme une voix de grandes eaux et un sublime roulement de tonnerre disant « Alléluia ». Ce quatrième « Alléluia » exprime la joie du ciel de voir que la gloire de Christ est garantie et que les désirs de son cœur sont accomplis. Ses souffrances auront une réponse glorieuse car le temps du règne est venu. Son amour, qui l'a conduit à mourir pour l'Église, sera satisfait, car les noces de l'agneau sont venues. Il nous est ainsi permis de voir l'accomplissement de tous les conseils de Dieu pour Christ et son Église. Quelle bénédiction de voir que de tout temps, depuis le début de l'histoire de l'homme, Dieu a toujours gardé devant nous les vérités si chères à son cœur concernant l'agneau et l'épouse. Le premier-né du troupeau d'Abel commence l'histoire de l'agneau. Abraham reprend l'histoire en disant « Dieu se pourvoira de l'agneau ». Moïse poursuit l'histoire quand, le soir de la Pâque, il dit à Israël de prendre un agneau sans défaut. Ésaïe annonce que Christ sera amené comme un agneau à la boucherie. Jean le baptiseur, regardant sur la terre, peut dire « Voilà l'agneau de Dieu ». Pierre rappelle que nous sommes rachetés par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et Jean place devant nous l'agneau au milieu du trône comme immolé et nous conduit à la réponse glorieuse à toutes ses souffrances quand le grand jour des noces de l'agneau sera venu. De plus, Dieu a toujours eu devant lui que l'Église, comme épouse de Christ, lui soit présentée pour la satisfaction de son cœur. Avant la chute, pouvons-nous ne pas voir en Ève, qui fut présentée à Adam comme celle qui lui correspondait, le grand secret, maintenant révélé, que Christ devait avoir une grande compagnie de saints faits à sa ressemblance et présentés à lui-même? Rebecca, en qui Isaac a trouvé consolation et amour, continue l'histoire de l'épouse. Puis nous savons combien Asnath, Ruth, Abigaïl et l'épouse du Cantique des Cantiques présentent toutes différentes images de l'Église comme épouse de l'agneau. Au cours des siècles et des dispensations, de l'essor et la chute d'Israël, de la période chrétienne marquée de tous ses manquements, Dieu a accompli par derrière son grand dessein et a fait tout avancer vers le grand jour des noces de l'agneau. Verset 8. L'épouse, qui s'est préparée, indique sûrement que le tribunal de Christ est passé. Toutes les fautes de son voyage à travers le désert de ce monde ont été réglées, il ne reste plus que ce qui a l'approbation de Christ. L'épouse sera présentée vêtue de fin lin, qui sont les justices des saints, est-il dit aussitôt. Tout ce que les saints ont fait pour Christ et en son nom, pendant le temps de leur séjour sur la terre, tout opprobre, souffrance et insulte qu'ils ont endurée, toute coupe d'eau froide donnée de sa part, sera rappelée dans ce grand jour et sera trouvée à louange, honneur et gloire. Le moindre acte qui a Christ pour motif est un fil du vêtement qui ornera l'Église quand elle sera enfin présentée à Christ sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Quelle joie de réaliser qu'aucun membre de l'Église de Christ ne sera absent en ce grand jour. Petits et grands seront au rendez-vous. Les millions de martyrs inconnus, qui ont subi toute forme de violence et d'outrage à l'époque de la Rome païenne, seront là. Tous ceux qui auront traversé des horreurs encore plus grandes aux mains de la Rome papale auront une glorieuse réponse à toutes leurs souffrances. La vaste armée de saints, qui, au cours des siècles, ont vécu dans l'obscurité, sous l'œil de Dieu, comme les hommes paisibles du pays, et dont nous n'avons aucune trace dans l'histoire, sera enfin manifestée dans la gloire comme faisant partie de l'épouse de Christ, sainte et sans tache. Nos yeux contempleront, sur ta face adorable, du Sauveur, de l'Époux, la suprême beauté. L'Église portera dans la gloire future l'éclat immaculé de tes perfections. Tu jouiras, Seigneur, du travail de ton âme, et ton amour divin en sera satisfait. Verset 9. Ensuite, nous voyons qu'outre l'Église, qui prendra la place de bénédiction pour laquelle elle a été élue, il y aura aussi ceux qui sont bénis comme conviés au banquet des noces de l'agneau. Un banquet de noces ne se limite pas à l'époux et à l'épouse, il inclut forcément les invités. Les invités de ce grand banquet représentent sûrement la grande armée des saints de l'Ancien Testament qui, bien qu'ils ne fassent pas partie de l'Église appelée d'entre les Juifs et les Gentils pendant la période chrétienne de la Pentecôte à l'enlèvement de l'Église, participeront pourtant à la résurrection des saints comme faisant partie de cette grande compagnie dont il est dit « ceux qui sont du Christ à sa venue » 1 Corinthiens 15, verset 23, et auront leur place spéciale de bénédiction au jour de gloire. Toute la longue lignée de saints avant la croix sera là. Abel et la grande armée des martyrs seront là. Hénoch, qui a marché avec Dieu et les myriades de saints dont il a prophétisé, seront là. Abraham et les étrangers et pèlerins, qui ont tourné le dos à ce monde pour chercher un pays céleste, seront là. Moïse et tous ceux qui ont plutôt choisi de souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps des délices du péché, seront là. En un mot, toute la grande armée des saints qui ont foulé le chemin de la foi depuis le jardin d'Éden jusqu'à la croix de Christ, petits et grands, dont le monde n'était pas digne, sera là, et aura sa part bénie au banquet des noces de l'agneau. Ces merveilleux dévoilements de la gloire à venir se terminent avec l'assurance que ce sont ici les véritables paroles de Dieu. Nous pouvons donc être pleinement convaincus de leur vérité et les embrasser de tout cœur par la foi qui repose sur les véritables paroles de Dieu. Verset 10. Impressionné par la gloire de l'ange qui annonce ces grands événements, Jean tombe à ses pieds pour lui rendre hommage. L'ange l'avertit aussitôt de ne pas l'adorer, car ils sont compagnons de service, mais d'adorer Dieu. L'ange n'était qu'un serviteur pour annoncer les vraies paroles de Dieu et nous conduire ainsi à adorer Dieu, but de tout vrai service. De plus, il est rappelé que l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus. La prophétie nous dévoile en effet le jugement à venir des nations et la bénédiction future du peuple de Dieu, mais tout est en vue de la gloire et l'honneur de Jésus. Le grand but des vraies paroles de Dieu est Jésus. En lisant la prophétie, il est donc bon d'avoir devant nous non seulement des événements futurs, mais Jésus lui-même. Jésus, toi seul es digne d'être loué sans cesse, car ton amour, ta grâce et ta bonté s'élèvent au-dessus de toutes nos pensées. Versets 11 à 21. L'apparition de Christ. Citation de l'Écriture. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui est assis dessus appelé fidèle et véritable. Et il juge et combat en justice. Et ses yeux sont une flamme de feu, et sur sa tête il y a plusieurs diadèmes. Et il porte un nom écrit que nul ne connaît, que lui seul. Et il est vêtu d'un vêtement teint dans le sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin, blanc et pur. Et une épée aiguë à deux tranchants sort de sa bouche, afin qu'il en frappe les nations. Et lui les pètera avec une verge de fer, et lui foule la cuve du vin de la fureur de la colère de Dieu le Tout-Puissant. Et il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange se tenant dans le soleil, et il cria à haute voix, disant à tous les oiseaux qui volent par le milieu du ciel, « Venez, assemblez-vous au grand souper de Dieu, afin que vous mangiez la chair des rois, et la chair des chiliarques, et la chair des puissants, et la chair des chevaux et de ceux qui sont assis dessus, et la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées, assemblés pour livrer combat à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et le faux prophète qui était avec elle, qui avait fait devant elle les miracles par lesquels il avait séduit ceux qui recevaient la marque de la bête et ceux qui rendaient hommage à son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans l'étang de feu, embrasés par le soufre. Et le reste fut tué par l'épée de celui qui était assis sur le cheval, laquelle sortait de sa bouche, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Fin de citation. Au verset 15 à 18 du chapitre 11, nous avons vu qu'au son de la dernière trompette du jugement, les royaumes de ce monde passent à notre Seigneur et à son Christ. Suite au récit de ce grand événement, une grande parenthèse a présenté les principaux personnages et événements de la période qui précède immédiatement le règne de Christ. Après cette parenthèse, l'histoire prophétique des événements à venir se poursuit à partir de ce verset 11. Verset 11. Il est maintenant parlé de l'apparition publique de Christ et de ses saints pour établir son règne sur la terre. Jean dit « Je vis le ciel ouvert ». Chaque fois que les cieux sont ouverts, c'est en relation avec Christ. Les cieux lui furent ouverts pour que le ciel puisse enfin regarder et voir sur la terre celui en qui le Père a trouvé toutes ses délices. Matthieu 3, versets 16 à 17. Après son ascension, Étienne peut dire « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Les cieux sont ouverts maintenant afin que les croyants sur la terre puissent lever les yeux et voir un homme dans la gloire. Acte 7, versets 55 et 56. Au verset 1 du chapitre 4, nous voyons une porte ouverte dans le ciel pour que Jean puisse passer en esprit dans cette scène de gloire et trouver Christ comme l'agneau, le thème de la louange universelle, celui qui, en tant que créateur et rédempteur, est digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Chapitre 4, verset 11, chapitre 5, verset 9 à 14. Dans ce chapitre 19, les cieux sont ouverts pour que Christ vienne régner comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Puis nous verrons encore les cieux ouverts et les anges s'attendant à Christ, le Fils de l'homme, pendant le millénium, quand le ciel sera en relation avec la terre sous le règne de Christ. Jean 1, verset 51. En vision, Jean voit un cheval blanc, symbole du pouvoir victorieux. La première venue de Christ fut en faiblesse et en humilité, comme un petit enfant. La prochaine venue sera en puissance et en gloire. Le cavalier sur le cheval blanc ne peut représenter que Christ, car qui, à part Christ, peut être décrit comme fidèle et véritable? Lors de sa première venue, il a été marqué par la grâce et la vérité qui ont apporté le salut aux hommes. À sa seconde venue, il viendra comme fidèle et véritable pour exécuter le jugement. Aussi lisons-nous aussitôt, il juge et combat en justice. Verset 12. Ses yeux comme une flamme de feu parlent sûrement du regard scrutateur auquel rien n'est caché. les plusieurs diadèmes, peuvent rappeler sa domination universelle et ses droits souverains. Ensuite, il est dit qu'il avait un nom écrit que nul ne connaît que lui seul. Le passage présente d'autres noms que nous pouvons connaître dans une mesure, car il est appelé fidèle et véritable, et son nom est appelé la parole de Dieu. Et encore, il a un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Mais s'il vient en tant que fils de l'homme pour régner, la gloire de sa personne en tant que fils de Dieu est soigneusement gardée. En tant que tel, il est au-dessus de l'homme et au-delà de ce que la créature peut comprendre, car personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Matthieu 11, verset 27. Verset 13. Son vêtement teint dans le sang parle sûrement du sang des rebelles, le signe de leur mort sous le jugement, plutôt que de son sang versé pour les pécheurs. L'évangile de Jean nous dit que, en tant que parole, Christ révèle le Père en grâce et en vérité. Ici, nous voyons qu'il présente Dieu en justice et en colère contre les nations. Verset 14. Nous apprenons maintenant que les saints glorifiés viendront avec Christ lors de son apparition. D'après d'autres passages, nous savons que le Seigneur Jésus sera révélé du ciel avec les anges de sa puissance, de Thessaloniciens 1, verset 7. Nous savons également que les croyants viendront avec Christ, car nous lisons « Quand le Christ qui est notre vie sera manifesté, alors vous aussi vous serez manifestés avec lui en gloire. » Colossiens 3, verset 4. Ici, les armées qui suivent Christ semblent être les saints glorifiés plutôt que les armées angéliques. Le verset 14 du chapitre 17 nous a appris que ceux qui sont avec le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois sont appelés et élus et fidèles, ce qui pourrait difficilement s'appliquer aux anges. De plus, nous lisons à propos de ses disciples qu'ils sont vêtus de fin lin, blanc et pur, et donc moralement aptes à accompagner le roi et le Seigneur dans sa puissance victorieuse. Verset 15. Les saints accompagnent le Seigneur, mais c'est lui qui exécute le jugement. C'est sa bouche qui prononcera la parole qui, comme une épée aiguë à deux tranchants, détruira les méchants. C'est sa main qui brandira la verge de fer qui, accomplissant le psaume 2, mettra en pièces les nations apostates et rebelles. Ce sont ses pieds qui, dans un jugement terrible, fouleront la cuve de la fureur de la colère de Dieu le Tout-Puissant. Verset 16. Ainsi, lorsqu'il apparaîtra en gloire pour s'occuper de tous les ennemis de Dieu, il sera manifeste qu'il est vraiment roi des rois et seigneur des seigneurs, celui dont Dieu a dit « Je te donnerai les nations pour héritage et pour ta possession les bouts de la terre. » Psaume 2, verset 8. Versets 17 et 18. Les versets qui terminent le chapitre annoncent les jugements qui suivront immédiatement l'apparition de Christ. Au verset 9, nous avons vu la bénédiction des saints dans le ciel, qui seront appelés au banquet des noces de l'agneau. Ici, nous avons un souper très différent. Le grand souper de Dieu, qui aura lieu sur la terre, auquel les oiseaux de proie sont appelés à se régaler de rois, de capitaines, d'hommes puissants, de chevaux et leurs cavaliers, hommes libres et esclaves, petits et grands, qui seront terrassés par le jugement à l'apparition de Christ. Verset 19. Si le roi des rois vient sur la terre, suivi des armées du ciel, de son côté, le diable rassemble les rois de la terre et leurs armées, pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval et à ses armées. Verset 20. L'issue d'un conflit entre Christ avec les armées du ciel et la bête menant les armées de la terre ne peut être que la défaite écrasante des forces du mal. Au cours de l'histoire de ce monde, deux hommes ont eu la gloire et l'honneur particulier d'aller au ciel sans passer par la mort. Quand le monde s'était livré à la violence et à la corruption, Enoch, qui marchait avec Dieu, ne fut plus, car Dieu le prit. Quand la nation d'Israël sombrait dans la corruption et l'apostasie, le prophète Élie fut enlevé au ciel. Maintenant, en regardant au temps où un monde apostat sera rassemblé pour faire la guerre à Dieu et à Christ, nous voyons que les deux chefs de cette rébellion seront jetés vifs dans l'étang de feu embrasé par le soufre. Comme il a été souligné, Si Dieu est intervenu pour montrer sa miséricorde en amenant vivants au ciel deux hommes qui s'étaient tenus pour Dieu, maintenant, Dieu intervient avec un jugement implacable en envoyant vivants, dans l'étang de feu, deux hommes leaders du mal, sous l'emprise de Satan. Aucun autre jugement au grand trône blanc n'est nécessaire pour la bête et le faux prophète. Leur sentence éternelle est aussitôt exécutée. Les armées qui les ont suivies tombent sous le jugement gouvernemental du roi des rois, mais pas avec un châtiment aussi immédiat et terrible que celui des deux chefs. Ils doivent encore paraître devant le grand trône blanc.